Bonjour et bienvenue sur les chroniques du recyclage. Je suis Arnaud Boucheron et avec Dominique Maguin, nous donnons la parole deux fois par mois pendant 30 minutes à un acteur des métiers du recyclage. Notre objectif, c'est de partager avec vous des éclairages, des conseils, des bonnes pratiques sur des sujets aussi variés que par exemple l'évolution de vos marchés, les grandes innovations ou encore de discuter des moments clés qui vont rythmer la vie de vos entreprises, que ce soit la transmission, la croissance, organique, externe, etc. Très bonne écoute et à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue sur les chroniques du recyclage. Pour ce second épisode, c'est Sébastien Wolf qui nous accompagne. Nous allons discuter ensemble du marché du recyclage des films plastiques et en savoir plus sur la formidable aventure Reborn Plastics. Sébastien, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter?
Bonjour à tous, donc Sébastien Wolf, je suis le cofondateur du groupe Reborn Plastique, qui est un groupe qui s'est formé depuis une vingtaine d'années par acquisition à la fois d'usines de fabrication de films polyéthylène. Nous avons quatre usines en France et le groupe fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 450 salariés et nous avons cinq usines en France. Et aujourd'hui, nous proposons une offre qui va de la collecte de déchets de films polyéthylène jusqu'à la réintégration à des taux très élevés dans des films plastiques pour des applications dans l'agroalimentaire, l'hygiène, l'industrie, sur ce marché très important en quantité qu'est le polyéthylène.
Super clair, merci. Dominique, je te laisse démarrer avec la première question.
Alors, Sébastien, on a eu l'occasion de se rencontrer hein, quelques fois. Quand en 2015, vous avez décidé de lancer un plan de transformation pour passer quasiment en exclusivité sur de résine vierge vers des matières recyclées, est-ce que vous aviez conscience d'abord des difficultés que vous alliez rencontrer et est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait de cette mutation?
On a été confronté à des difficultés, bien entendu. Notamment, la première difficulté, c'est que on voulait en fait dès le départ essayer de mettre sur le marché des films plastiques avec un taux de recyclé maximal. On est sur des emballages secondaires et des emballages tertiaires. On imaginait dès le départ que des taux de 80% ou 100% n'étaient pas complètement irréalistes. Et finalement, on s'est assez rapidement rendu compte que on aurait des difficultés à trouver en 2015-2016 sur le marché des granules recyclées de très haute qualité, un des éléments fondamentaux pour pouvoir avoir une qualité élevée, donc une intégration élevée, était la traçabilité de ces matières. Et donc, on a commencé en fait à organiser une petite action de collecte, notamment auprès de nos clients dans l'agroalimentaire ou dans l'hygiène, qui ont des déchets on va dire commerciaux et industriels. On a pu en fait assez rapidement produire des films avec 80% ou 100% de matière recyclée, que ce soit pour des packs d'eau, que ce soit pour des sachets de sopalin ou des gaines verrières. On a passé en 2018 un cap industriel dans le sens où on a commencé à lancer sur des très grosses marques d'eau minérale ou de bière, on est vraiment passé en industriel. On était assez inquiet au départ d'avoir beaucoup de problèmes de qualité. Et puis finalement, le comportement de ces films sur les lignes de nos clients, bon, l'homologation est longue, mais le comportement a été très bon. Et depuis, on est complètement en phase industrielle. Alors, je ne vous cache pas que passer du recyclé sur une extrudeuse ou sur une imprimeuse, on a des modifications de process à faire. C'est un petit peu plus compliqué, les lignes tournent un petit peu moins vite, il y a un peu plus de taux de déchets, mais on n'a pas été obligé de modifier complètement nos usines de packaging. Et aujourd'hui, on est très satisfait parce que ben, on voit bien que ce qui nous paraissait être le sens de l'histoire en 2015, ben, finalement, c'est presque allé plus vite que ce qu'on pensait. Et la demande actuellement pour ces films est très importante.
Sébastien, tu parlais de la partie industrialisation. Aujourd'hui, c'est quoi le point le plus compliqué pour aller au bout de la transformation et augmenter considérablement encore le nombre de la partie recyclée de matière entrante que vous utilisez?
On se rend compte que on a des tolérances de spécifications techniques sur les recyclés qui, malgré tout, bougent plus que le vierge. Et donc, on a en permanence des travaux d'ajustement de formulation, de rattrapage, qui se font encore de manière un petit peu industrielle, un peu artisanale, pardon. Et la seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est de considérablement renforcer nos procédures de contrôle au niveau du recyclage, de sortir une granule recyclée qui, dans ses spécifications, ne bouge quasiment pas. Et on y arrive par l'expérience, c'est-à-dire qu'on a augmenté les capacités de nos laboratoires sur tous les sites. Donc, on a maintenant plusieurs années derrière nous de problèmes qualité, donc avec des démarches ensuite d'autocontrôle et de correction. Et donc, statistiquement, on arrive à faire baisser ces non-qualités internes à des niveaux qui deviennent tout à fait acceptables.
Formidable. En tout cas, aujourd'hui, Sébastien, de mémoire, vous êtes un des tout premiers, votre groupe est un des tout premiers groupes sur le plan européen. Est-ce que vous avez un effet d'entraînement sur la compétition dans votre profession ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on le souhaite. On pense être parti peut-être un petit peu avant les autres acteurs.
Je vous le confirme.
Il y avait déjà sur le marché d'autres acteurs qui étaient intégrés en recyclage, mais plutôt pour des applications telles que le film agricole ou le sac sans fin. Pas sur des applications de packaging premium qui ont vocation à être ensuite imprimées et porter l'image de la marque. Là, on était finalement un peu précurseur. Depuis 12 à 18 mois, la tendance s'est accélérée, ce qui est plutôt d'ailleurs une bonne chose dans le sens où quand nos clients, donc les grandes marques, décident de basculer du vierge vers le recyclé, ils préfèrent le faire en sachant que dans la filière, il n'y a pas un seul acteur qui est capable de le faire, mais plutôt trois ou quatre. Donc, en Europe, il y a 1600 transformateurs de polyéthylène. Sur ces 1600 transformateurs de polyéthylène, je considère qu'on est une petite dizaine à avoir cette capacité à produire des films avec un taux de recyclé très élevé par l'intégration. Et c'est aujourd'hui suffisant pour que cette catégorie démarre vraiment et que nos clients basculent. Ce qui manque clairement, parce qu'on a eu une stratégie d'intégration, mais on achète également beaucoup de recyclés sur le marché, c'est que pour fournir ces 1600 transformateurs de polyéthylène, aujourd'hui, il y a entre 150 et 200 recycleurs de polyéthylène, ce qui est bien insuffisant. Donc, on pense que les deux filières vont se développer avec un gros effet de rattrapage du côté du recyclage.
J'ai une question subsidiaire sur le passage du vierge au recyclé. Est-ce que ça a impliqué pour vous au niveau de la contractualisation avec vos clients? Traditionnellement, sur les plastiques vierges, on indexe le contrat à la vente et à l'achat, on achète en fonction des indices. Est-ce que sur le recyclé, vous arrivez à mettre en place des modèles similaires? Et si oui, est-ce qu'il y a des indices sur lesquels se baser? Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent qui est en train d'émerger?
Alors c'est quelque chose de complètement différent qui est en train d'émerger. Pour l'instant, on a plutôt fonctionné en mode projet avec nos clients. Assez souvent, quand on propose des films recyclés, on propose également de faire de la collecte sur les déchets correspondants chez nos clients et chez les clients de nos clients. Donc, c'est des business models qui sont un petit peu plus compliqués. Nous, on pense et on espère qu'un jour un indice va émerger. On sait que les grands noms qui produisent des indices plastiques aujourd'hui travaillent dessus. Cet indice est déjà très actif sur le PET. On pense que sur le PE, on va avoir prochainement des indices sur lesquels tout le marché pourra se baser pour pouvoir faire un pricing transparent.
Ce qui est important finalement, Sébastien, c'est de se poser la question de la pérennité de la filière, puisque à partir du moment où on lance un processus industriel, bien évidemment, ça suppose des investissements lourds, ça suppose bien évidemment l'éducation à la fois tant du personnel dans les usines que bien évidemment de sa propre clientèle, habituer son client à un nouveau produit. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme enjeu autour de cette question de la pérennité de la filière?
Pour essayer de répondre à votre question, c'est notre anticipation, c'est-à-dire qu'on pense que le polyéthylène va devenir une très grosse catégorie pour le recyclage et va muter complètement vers des films avec des taux de recyclés très élevés. C'est-à-dire que nous, on voit un marché qui, dans 5 ou 10 ans, sera sur un taux de recyclage qui se rapprochera du PET, avec beaucoup de capacités installées, avec également le polyéthylène qui aura récupéré par substitution bah, d'autres plastiques qui se recyclent moins bien. Et on commence à le voir de plus en plus. On voit également que les technologies de recyclage mécanique évoluent très rapidement, que ce soit à travers du désancrage, que ce soit à travers du tri optique, et puis également tout simplement le tri à la source qui est extrêmement important. Et donc, nous, on voit cette filière mature dans quelques années. Et ce qu'on constate également, c'est que plus sur l'aspect consommateur, l'aspect client, bien entendu, les marques se posent des questions par rapport au plastique vierge, bien entendu. Ils s'en posent également sur le plastique recyclé, mais le bilan et la praticité à basculer d'un film vierge vers un film recyclé est aujourd'hui largement suffisant pour que la bascule se fasse et que la filière démarre.
Sébastien,
Oui?
tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce bilan environnemental? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez dans vos analyses par rapport à des produits de substitution type le carton ou l'alu qui pourrait être réutilisé
Alors, nous, on utilise et on propose d'ailleurs à tous les clients qui basculent sur des films Reborn, on travaille avec une société en Belgique qui s'appelle UCAN, qui calcule ce qui s'appelle le Product Environmental Footprint, le PEF, qui est une analyse de l'impact d'un bien de consommation à travers 14 critères. Donc, il y a bien entendu le critère du CO2, mais il y a également un critère sur l'utilisation d'eau, un critère sur l'utilisation de terres agricoles. Et donc, assez souvent, nos clients nous demandent de faire des comparatifs avec bon, la solution film vierge, mais également avec des solutions carton, voire d'autres solutions, d'autres matériaux. Ce qu'on constate, c'est que dans ce mode de calcul, la maturité de la chaîne de recyclage d'un pays donné est prise en compte. C'est-à-dire que quand on est dans un pays où le recyclage fonctionne bien, par exemple comme les pays scandinaves, quelle que soit la catégorie, clairement le film Reborn ressort largement mieux que toutes les alternatives. Parce que bah, on sait très bien que produire du carton utilise énormément d'électricité. Le bilan CO2 du carton n'est pas très bon. Son bilan en termes de fin de vie est largement meilleur que le plastique aujourd'hui. Donc, quand on fait tourner justement ces calculs sur des pays où la filière de recyclage fonctionne bien, où elle est efficace, c'est généralement un résultat évident qui saute aux yeux. Donc, le film recyclé est la bonne solution dans nos applications, boissons, hygiène, etc. Quand on fait tourner dans des pays où la fin de vie n'est pas gérée, là, clairement,
forcément.
le bilan est quand même meilleur sur le film. Et puis, il est surtout très pénalisé sur la partie fin de vie, c'est-à-dire que le gain de CO2, qui va être fait en utilisant du film recyclé va être perdu en partie par une fin de vie qui n'est pas optimale. Donc, ce qui finalement plaide pour une chose, c'est pour développer au maximum, en tout cas dans notre catégorie, la recyclabilité de nos emballages, développer les chaînes de collecte et développer les capacités de valorisation.
J'avais une question complémentaire sur la pérennité de la filière. Donc, il y a bien sûr cette partie réglementaire dont tu as parlé, mais il y a aussi l'engagement des clients finaux. Il faut qu'il y ait de la demande pour qu'une filière puisse durer. Et on a eu l'impression en avril-mai, quand justement les cours du pétrole vierge ont fortement chuté, les polymères avec, que la filière, dans le sens large des emballages plastiques et du recyclage des plastiques, était à terre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi observé sur votre filière plus spécifique, qui est l'emballage polyéthylène? Ou est-ce que vous sentez arriver ce découplage entre le recyclé et le vierge, où le recyclé est plus forcément un substitut, mais un produit à côté qui vient finalement remplacer durablement les résines issues directement du pétrole?
Alors, on a pas vécu la période où le PET vierge, et pas le polyéthylène, PET vierge est devenu plus cher que moins cher pardon que le PET recyclé. Paraît-il que lorsque ça s'est passé, tout le monde est repassé sur du vierge. Là, ce qu'on a constaté nous en avril-mai 2020, c'est que dans notre catégorie qui est le polyéthylène recyclé, On a, pendant plusieurs mois, eu des coûts de production de ces polyéthylènes recyclés plus élevés que le vierge. La grosse différence, c'est que, en tout cas, en ce qui nous concerne, on a des engagements qui ont été pris vis-à-vis des donneurs d'ordre d'intégrer 80%, 100% de matières recyclées. Et donc, ces engagements, on les a tous tenus. Et ça montre qu'en fait, le recyclé, je pense, n'est plus utilisé comme une matière d'appoint, que c'est vraiment devenu un produit à part, différent, qui un jour aura son pricing. Et ce pricing, on est persuadé, va se découpler progressivement du vierge. Alors, c'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui d'intégrer du recyclé avec le polyéthylène à presque 2000 euros que d'intégrer du recyclé en avril-mai quand on arrivait à trouver du polyéthylène à 1000 euros et moins que ça. Mais on est dans une logique qui est différente. Et puis, de toute façon, il y a des engagements également qui sont pris vis-à-vis des organismes tels que Citeo en France et d'autres organismes qui permettent de faire bénéficier à nos clients de bonus ou de réduction de leur éco-contribution. Et derrière, nos usines sont auditées. Donc, on est audité au Serplast. Nos fournisseurs de recyclés sont également audités au Serplast. Et donc, on a des bilans matières à produire qui prouvent qu'on a effectivement utilisé du recyclé durant toute la période.
Mais je crois qu'effectivement, comme vous l'avez très justement souligné, Sébastien, le pricing particulier de ces matières est un élément fondamental pour arriver à avoir une filière qui se structure de manière pérenne. Et de ce point de vue-là, je dirais que c'est aussi lié au point que j'avais abordé tout à l'heure, qui était la demande sociale. C'est-à-dire que si on passe d'un espèce de plastique bashing a vraiment un effet très didactique où on explique aux gens à quoi ça sert, ce que vous êtes en train de faire et ce que font un certain nombre de producteurs aujourd'hui, on aura à ce moment-là, je crois, partie gagnée parce que la demande sociale se fera et il y aura une préférence naturelle qui ira vers ce type de production. Et à ce moment-là, on sera vraiment découplé, je crois, du prix de la résine vierge et on aura des investissements industriel plus, je ne vais pas dire plus facile, mais en tout cas moins complexe à mettre en œuvre.
D'accord, Dominique. C'est clair qu'aujourd'hui, ça reste difficile de faire des calculs de payback sur des investissements recyclés, alors notamment quand on n'est pas intégré. On a la chance d'être intégré, donc d'une certaine manière, on maîtrise un petit peu plus la chaîne de valeur. Et quand on n'est pas intégré, on peut faire des hypothèses de prix de vente de recyclés qui vont quasiment du simple au double et bien entendu on n'a pas le même payback derrière, mais on constate quand même depuis un an que la filière s'équipe clairement. Alors, dans notre domaine qui est le polyéthylène, la filière s'équipe assez rapidement. On a des objectifs également 2025 à tenir là, au sein de Plastic Recyclers Europe. L'objectif sur la catégorie LDPE packaging, c'est d'arriver à 35% d'intégration de matières recyclées. Aujourd'hui, on n'est même pas à la moitié de ça. Sachant que le chemin doit se faire beaucoup sur le packaging parce que le taux d'intégration est déjà assez élevé dans l'agricole ou les sacs sortis de caisse. Donc, et quand on regarde finalement la quantité d'unités de recyclage à installer en Europe pour pouvoir atteindre cet objectif qui est là demain, hein, parce que c'est dans 4 ans. Il faut en général 2 ans pour monter une unité de recyclage polyéthylène, un an et demi pour obtenir les homologations chez les clients et que l'usine devienne vraiment industrielle. Il faut que les décisions soient prises maintenant pour être en ordre de marche en 2025. On a quand même constaté, pour revenir sur le pricing, une évolution quand même des mentalités chez les donneurs d'ordre qui voient bien que qui ont beaucoup d'intérêt pour le sujet, qui voient bien que la structure du prix de revient de recycler est différente de la structure du prix de revient du vierge et qu'en fait à qualité fonctionnelle équivalente sur les lignes d'embouteillage ou sur les lignes de conditionnement de nos clients. C'est un produit qui a plus de valeur, qui amène une valeur supplémentaire à la marque, qu'elle décide ou non de l'utiliser, parce que parfois, on fait du reborn et puis la marque ne souhaite pas, pour plein de raisons, le mettre en avant, et qui apporte aussi de la stabilité. C'est-à-dire que les matières vierges qui doublent en quelques mois, c'est problématique. Le recyclé a vocation à être beaucoup plus stable et avoir une bien meilleure valeur perçue. Et ça, ça a changé également depuis 1 ou 2 ans. Ça a changé beaucoup plus vite que ce qu'on pensait.
Et alors, Sébastien, en fait, quand vous avez lancé finalement ce projet Reborn, vous avez fait un choix qui était l'intégration verticale, qui semblait s'imposer pour tout ce que vous nous avez déjà expliqué, bien évidemment, sur, d'une part, la fiabilité, la qualité produite, la fiabilité de la fourniture de matière et la stabilité de la matière qu'on vous fournit. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est toujours fondamental et nécessaire, ou est-ce que vous pensez que l'évolution que vous évoquiez tout à l'heure sur finalement cette filière qui semble se structurer, même s'il semble qu'il n'y ait pas assez d'offres encore sur le marché, est-ce que vous pensez que vous pouvez vous appuyer aujourd'hui sur des entreprises, des fournisseurs indépendants pour vous approvisionner ?
Alors, on a fait le choix de s'intégrer verticalement par nécessité. Donc, ce n'était pas, on va dire, une décision de diversification du groupe. C'était vraiment pour pouvoir démarrer cette stratégie de transformation de notre groupe vers des films 80-100% recyclés. Donc, ça a été vraiment un choix par nécessité. Au bout de 4 ou 5 ans, ce qu'on constate, c'est que certains acteurs, et qui sont encore trop peu nombreux, avec trop peu de capacités, proposent des produits du niveau de qualité qu'on recherche. Et bien entendu, on travaille avec tous aujourd'hui, mais les volumes sont encore assez limités. On pense que dans 1 an ou dans 2 ans, le paysage sera complètement différent. En fait, la logique des gestionnaires de déchets a longtemps été une logique de massification des flux, et quand on dit massification, automatiquement on dit perte de traçabilité. Et la perte de traçabilité derrière, pour nous, ça a un impact immédiat, c'est qu'au lieu de mettre 80%, on va en mettre 20%. Alors peut-être que le coût sera inférieur, mais derrière on n'atteindra pas notre objectif qui est d'avoir un produit 100% recyclé. Certains acteurs ont engagé des modifications dans leur supply chain, également dans leurs outils de recyclage, dans la manière d'aborder également leur gisement, qui leur permettent de proposer des produits qui sont des produits premium qu'on achète en grande quantité. D'ailleurs, aujourd'hui, on achète plus en externe qu'on ne produit en interne, pour pouvoir gérer notre projet Reborn. Et on pense que dans la durée, on aura probablement la grande majorité de nos besoins qui sera acheté sur le marché plutôt qu'en interne. En revanche, le fait d'avoir internalisé, ça nous a permis en fait, d'avoir un dialogue d'une bien meilleure qualité avec les recycleurs, parce qu'en fait, on comprend leurs contraintes, on comprend les complications, et on peut aussi les aider à faire les petites modifications sur leur ligne qui permettent d'avoir le niveau de qualité qu'on cherche.
Sébastien, sur ce que tu dis maintenant, que vous achetez plutôt majoritairement en externe qu'en interne, vous achetez quoi ? Plutôt de la balle, plutôt du granule ? Enfin, à quel moment et à quel moment vous aimez entrer en jeu sur la chaîne de valeur et la vie du produit ?
Là, on parlait vraiment du recyclé lui-même. Donc, ouais. Le recyclé qui est intégré dans les films Reborn aujourd'hui est majoritairement acheté en externe. Le pourcentage de produits Reborn dans notre chiffre d'affaires devait être de l'ordre de 2-3% en 2015. On est aujourd'hui à 35%. Donc ça s'est développé quand même très très rapidement. Ça va devenir majoritaire probablement à un moment donné l'année prochaine. Et bien entendu, on a besoin de s'appuyer sur les capacités des recycleurs externes pour pouvoir fournir nos clients.
Comment tu vois la filière se structurer, l'étage d'avant, justement, la production de films et d'emballages ? Est-ce que, comme dans le qui sont plutôt l'acier, les métaux. On peut retrouver des sortes de grands préparateurs qui auront des cathédrales et après chez qui les uns et les autres vont aller s'alimenter en intermédiaire avec les collecteurs qui, eux, vont. Ou bien ce que tu vois plutôt aujourd'hui des plus petits acteurs, plus artisanaux, sur des quantités de volume plus faibles et plus locaux, se multiplier un peu partout et alimenter des usines assez proches. Enfin, qu'est-ce que tu vois venir sur cette partie structuration de la filière?
Ça représente quand même des investissements significatifs, des investissements à réaliser pour pouvoir s'équiper et produire du recyclé haut de gamme. Ce sont des investissements significatifs. Donc, je pense qu'il y a quand même cette logique de cathédrale industrielle, comme tu disais, Arnaud. Et je pense que ces unités de production seront plutôt soit chez les grands gestionnaires de déchets, quelques acteurs comme nous, qui seront intégrés par nécessité, mais peuvent aussi devenir des partenaires pour ces gestionnaires de déchets, pour finalement co-gérer des unités de recyclage un petit peu conséquentes, parce que bah, nous, on amène d'une certaine manière le contrat d'offtake, donc avec des engagements d'achat de volume qui sont significatifs. Et je pense que les pétrochimistes sont plutôt en train de travailler sur le recyclage chimique, donc 2025-2030, qui viendra compléter tout le dispositif, même si certains grands pétrochimistes ont fait des incursions de rachat de recycleurs mécaniques, mais encore une fois, c'est sur des quantités qui aujourd'hui sont extrêmement faibles par rapport à la demande qu'on entrevoit à 5-10 ans sur des recyclés PE haut de gamme.
Si on ne dit pas de bêtises, on est quand même aujourd'hui en insuffisance d'offres sur la matière de qualité nécessaire pour produire des emballages avec des taux de réintégration très élevés. Est-ce que vous avez une idée de où sont ces gisements aujourd'hui mal exploités ou peu exploités ou non captés? Et est-ce qu'on va dans la bonne direction pour apprendre à les traiter et les amener vers une meilleure valorisation?
Alors, dans notre catégorie qui est le polyéthylène, il y a énormément de gisements dans le retail. Donc, toutes les plateformes de grande distribution, les entrepôts, la logistique, les déchets qui nous intéressent sont en grande quantité dans ces filières. Elles sont également en grande quantité dans la construction. Donc, c'est là qu'est, à notre avis, le gros enjeu pour aller chercher les trop gros volumes pour nos applications.
En définitive, peut-être la dernière petite question. On a déjà parlé un petit peu des aspects réglementaires, mais qu'est-ce qui peut encore être fait pour aider votre filière à se développer?
Alors, c'est une question compliquée. Les deux choses qui nous manquent en fait aujourd'hui, si on regarde les deux côtés de notre filière, il nous manque, et c'est tout bête, mais un tri à la source beaucoup plus efficace qui n'est fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, on est quand même assez surpris qu'il y ait beaucoup d'innovations sur la valorisation. Il y a finalement assez peu d'innovations, que ce soit des innovations numériques ou des innovations en termes de matériel sur le tri à la source. Sur la partie complètement aval, on regarde également avec beaucoup d'intérêt la manière dont la plastique tax européenne va être répercutée dans la filière. Il semblerait qu'en Autriche, cette plastique tax est répercutée sur les fabricants de packaging avec des euros à la tonne sur la quantité de matière vierge utilisée dans les packaging mis sur le marché, ce qui serait bien entendu une bonne nouvelle.
C'est très clair.
Super. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, Sébastien. Et puis, on se retrouve prochainement pour l'épisode 3.
Merci beaucoup, Sébastien. À bientôt.
À bientôt.